Chaque samedi, je vous convie à un voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. À chaque rentrée littéraire, il enfilait son battle dress pour partir à la conquête de ses prix littéraires qui récompensent un livre, un auteur et parfois un éditeur. Couronné par le prix Renaudot en 1979 pour Affaires étrangères, son œuvre romanesque déploie un mélange de distance et d'ironie très autobiographique. Aujourd'hui, Capucine Rua et Somanina vous proposent Jean-Marc Roberts, 1954-2013, C'est toute une vie à aimer, aimer.
Radioscopie. Écrivain, journaliste et jeune homme pressé, ce jeune homme-là, c'est vous, Jean-Marc Roberts, et vous avez enfin, je dirais, trouvé des lauriers, des brassées de fleurs sur votre chemin, un prix d'importance, le Renaudot pour votre roman, votre dernier roman, Affaires étrangères. Et je serais tenté de dire que vous allez prendre, ou pouvoir prendre, un peu de temps pour souffler. Vous pouvez enfin être jeune, car il faut bien le dire, vous avez 25 ans.
Oui, je crois que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris que j'avais le prix Renaudot. Je me suis senti surtout soulagé. J'avais passé la journée du dimanche, donc devant le prix, avec Patrick Modiano, qui est un ami à moi, et qui, justement, à 25 ans, n'a pas eu la chance d'avoir le Renaudot. Il a attendu 8 ans. On a donné le Goncourt à 33 ans, et quand j'ai eu le Renaudot, il m'a dit « tu as gagné 10 ans ». Et c'est exactement ce que j'ai pensé.
Oui, il y a quand même une difficulté, parce que les écrivains s'obligent à croire qu'un prix peut les délivrer de leur angoisse. Ce n'est pas tout à fait vrai, vous allez vous inventer autre chose.
Non, je crois que c'est tout à fait faux. À la limite, c'est une angoisse tout à fait différente qui va commencer. J'écris pas par profession. J'écris par besoin. J'exerce un métier qui est celui de conseiller littéraire dans une maison d'édition où je lis les romans des autres. C'est un métier que j'aime passionnément. J'écris pour passer la vie, pour passer le temps qui me reste, et en volant du temps à mon activité principale.
Parce que deux vies valent mieux qu'une, Jean-Marc Roberts a commencé tôt, avant tout le monde. Éditeur, il arrivait à 8 heures à son bureau, une cigarette à la main, lisait les journaux, puis ouvrait les manuscrits. Écrivain, c'est à l'aube qu'il écrivait ses romans. 25, rédigés à la main. La comédie légère, Les enfants de fortune, Affaires étrangères, Mon père américain, Une petite femme, Un début d'explication, François-Marie, jusqu'au dernier. Deux vies valent mieux qu'une, paru 2 semaines avant sa disparition, comme pour donner le dernier mot à la littérature. Jean-Marc Roberts, éditeur en marchant, écrivain en courant. Un documentaire de Capucine Rua et Somanina.
Jean-Marc Roberts, quel âge as-tu ?
J'ai pas encore 18 ans, j'ai donc encore 17 ans.
C'est ton premier roman, je crois ?
C'est mon premier roman.
Samedi, dimanche et fête. Je vois que tu as mis à la fin que tu adorais les films de Truffaut et que tu as même cité une œuvre d'art, ce n'est pas un règlement de compte.
Pourquoi ? J'adore Truffaut parce qu'un jour j'ai rencontré Truffaut, pas dans la vie mais au cinéma. Je suis allé voir un film qui s'appelait Baiser volé. Oui. J'étais même pas enfant, j'étais en Italie, perdu dans un coin. Et quand j'ai vu Baiser volé, j'ai compris que je devais créer quelque chose, j'avais besoin de créer quelque chose, et j'ai donc adoré ce truc, ce film. Et j'ai vu tous les films de Truffaut, et j'ai commencé à vouloir faire du cinéma. Bon, j'avais 15 ans du cinéma, ça coûte cher, bon, tu vois. Et alors je suis allé dans une papeterie, j'ai acheté un cahier, ça coûte 2,60 francs, tu vois, on m'a fait un prix, et un stylo, et j'ai commencé à écrire des poèmes. Parce qu'on commence pas par un roman, c'est pas vrai, on commence par des petits poèmes, des choses comme ça. Et j'ai écrit l'année dernière, au mois de de mars, entre mars et avril et mai, ce roman.
Et dans quelles conditions l'as-tu écrit? Tu étais en cours, tu
j'ai, oui, je l'ai écrit au lycée. C'était ma dernière année de lycée, en terminale. C'est le lycée Chaptal, c'est très bien.
Sur la lande chemine, une gamine, c'est la fille du facteur, elle a mon cœur. On voit courir près d'elle son chien fidèle, qu'il est beau, qu'il est bon, il fait des bons. Et tout ça, je le vois, la fenêtre d'en haut, la fenêtre.
Le premier souvenir que je garde de lui, on était en 1970, à la rentrée.
Didier Barbelivien, chanteur.
1970, en septembre, et j'ai vu ce garçon, comment dire, un peu à part, un peu solitaire, mais assez avenant, assez jovial, arrivé dans un trench coat bleu marine qui se marquait bien avec ses yeux. Il avait les yeux bleus ardoise, hein, et c'était pas si courant. Lui, il avait un regard bleu très soutenu.
Chaptal est un lycée extrêmement politisé.
Jean-Michel Attal, ami d'enfance.
Il y avait les deux grandes tendances de l'époque. On était tout proche des événements de mai 68. On avait les maoïstes et les trotskistes dans le lycée. Je me souviens tout à fait que dans la cour de récréation, il y avait des mecs qui gueulaient « Mao, Lin Piao, vive la révolution !» Et nous, on était un peu plus jeunes qu'eux, donc on assistait à ce qui se passait, mais on n'y a pas participé. Et donc, nous, on utilisait notre temps, puisqu'il y avait beaucoup de cours qui étaient reportés ou annulés, plutôt à aller acheter des disques. Mes premiers souvenirs de Jean-Marc tournent beaucoup autour de ça, beaucoup autour de la musique. En plus, je suis allé à plusieurs reprises avec Jean-Marc à l'Olympia. On y a vu les débuts de Julien Clerc, on a dû voir des spectacles d'Adamo aussi. Et après, on s'est vite intéressé à des gens comme Christophe, qu'on a toujours beaucoup aimé tout au long de sa carrière, Michel Polnareff. C'était l'époque des répétitions de Hair avec Julien Clerc.
Et on rentrait assez facilement dans les salles de spectacle, et quand on rentrait pas facilement, il avait la combine et il savait comment on rentrait par l'entrée des artistes.
Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait.
Vous aviez un ami commun qui s'appelait Gérard Stern.
Gérard Stern, oui, qui lui commençait à écrire des chansons, à composer seul dans son coin des chansons, paroles et musique. Et il nous disait à l'époque, je passe des auditions, je vais bientôt enregistrer un disque. Au fur et à mesure, un jour, il nous a dit, ce qui serait bien, c'est que vous m'écriviez tous les deux des paroles de chansons. Et Jean-Marc avait écrit une chanson que j'adorais, qui s'appelait Les Petits Verlaines, qui est devenu le titre de son deuxième roman un peu plus tard.
Le métro dans les cheveux et les cheveux trop longs. Le ciné dans leurs yeux à
il voulait être chanteur, je ne sais pas comment ça avait pris, enfin si, sûrement à force d'écouter les autres chanter. Et il chantait bien Jean-Marc, et en plus il voulait que je lui écrive des chansons et que Stern écrive les musiques. Et moi pas du tout, je voulais être romancier. Donc moi je m'étais lancé dans l'écriture d'un roman improbable et que je lui avais donné à lire. Il est parti le week-end avec mon cahier, et le lundi matin, il m'en parlait pas. Moi, je me retenais de lui demander. Le mardi, il m'en parlait toujours pas. Et le mercredi, je me risque. Je lui dis, mais dis-moi, tu me parles pas du tout de ce que je t'ai filé à lire. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Il m'a dit, malheureusement, je l'ai lu. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Il m'a dit, c'est nul. Il m'a dit, mais c'est nul, mais... Oh. Comment tu peux écrire comme ça? Moi, j'étais effondré, j'étais au fond du trou. Je me dis, mais c'est mon pote, c'est comme mon frère, et pourquoi il me parle comme ça? Et il me dit, non, t'es doué pour les chansons, mais n'écris pas de romans. Et il me dit, D'ailleurs, je vais te montrer comment on écrit un roman. Et c'est là qu'il a commencé la rédaction de Samedi, Dimanche et Fête, de ce qu'allait être son premier livre.
Pour moi, la vie va commencer.
Alors, la vie de ce livre, alors, par exemple, là, dis-moi. Donc, tu l'as écrit sur ton cahier, tu l'as tout de suite, tu as été voir des éditeurs, qu'est-ce que tu as fait?
Oui, je l'ai porté un jour du mois d'août, parce qu'il n'y avait personne à Paris, sauf Jean Cayrol, je crois. J'aime beaucoup Jean Cayrol, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'écrivains en France.
Oui.
Enfin, même pas d'écrivain, parce qu'il aime pas le mot d'écrivain. Maintenant que je le connais un petit peu, il aime pas le mot d'écrivain. Alors, c'est pas un écrivain, c'est un grand romancier, c'est un auteur.
Je devais avoir 25 ans et il en avait 18.
Éric Orsenna, écrivain.
Et il marchait rue Jacob, devant les éditions du Seuil. Et j'étais avec Jean Cayrol. Et Jean Cayrol m'a montré ce personnage avec des cheveux assez longs, en tout cas extrêmement fournis. Il me disait, vous voyez celui-là, il s'appelle Jean-Marc, et il passe au tutoiement, ce sera ton frère. Et il avait raison. Parce qu'il faut savoir que dans ce Seuil de cette époque-là, le père, c'était Jean Cayrol. Il avait un fils très aîné, qui était Claude Durand, et puis il y avait Jean-Marc, et puis il y avait Michel Brodeau un petit peu plus loin, et puis il y a eu moi. Et donc ça a été notre famille.
J'aime bien votre manuscrit. Il est comme vous le souhaitez et comme vous vivez. J'aimerais bien vous revoir, car je suis vraiment favorable à ces pages. Vous me téléphonez et nous nous reverrons, car il y a pas mal de corrections à faire. Vous vous en doutez, je pense. Bien cordialement vôtre, Jean Cayrol.
Il venait d'avoir 18 ans.
Vous avez parlé de Jean-Marc.
Didier Decoing, écrivain.
Et je me rappelle, j'étais stupide. Il me dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Samedi, Dimanche et Fête. Et je lui dis, mais au fait, comment il écrit l'orthographe? Comment il orthographie samedi? Au pluriel ou au singulier? Il me dit, je ne sais. Quelle importance ça? Je dis, ça n'en a strictement aucune, c'est juste une curiosité. Parce que j'aimerais bien rencontrer ce garçon, comme vous, Jean. Et quand j'ai vu Jean-Marc la première fois, j'étais étonné parce que je ne l'avais pas imaginé comme ça.
C'est extraordinaire parce qu'à l'époque, donc, il a 7 ans de moins que moi. Il est né en 54, moi en 47. Puis il a publié très vite, il a été éditeur très vite. Il a reçu des prix immédiatement puisque son premier roman à 18 ans, il reçoit le prix Fénéon, qu'après il va recevoir le prix Renaudot pour Affaires étrangères, qui va devenir au cinéma Une étrange affaire. Et donc, il est déjà reconnu. C'est-à-dire que c'est un aîné, c'est en littérature un aîné qui est bien avant moi, alors qu'il a 7 ans de moins. J'ai toujours l'impression qu'il était plus âgé que moi, parce qu'il avait vu plus de choses, et ayant vu plus de choses, il était plus en retrait, et c'est pour ça qu'il avait une sagesse de vieux sage, un tout petit peu revenu, alors que moi j'avais 7 ans de plus que lui.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête,
À l'époque de Samedi, Dimanche et Fête, il était incroyablement excité par les gens que la parution de ce livre lui permettait de rencontrer. Il était fasciné par Jean Cayrol. C'est l'époque aussi où il a rencontré d'autres romanciers comme Camille Bourniquel, François-Marie Bagné et Jacques Grange. Par François-Marie Bagné, il a été invité chez Madeleine Castaing. Enfin, bon, donc c'était tout ce monde-là qui tout d'un coup était à portée de main.
Il a écrit quelque part qu'il avait été lancé comme un pur produit de son époque. Voilà, il a...
Pamela Roberts, sa première épouse.
Au début, la vie des autres comptait beaucoup pour lui. C'était important pour lui de savoir comment son livre serait reçu. Et je pense qu'il avait toujours un peu une crainte que le château de cartes s'écroule, que ce soit comme un... voyez, comme on retire un voile et d'être pris pour un imposteur. Il n'était pas sûr de lui, mais il avait un culot monstre. En fait, voilà, il avait un culot monstre. Et en même temps, j'ai souvenir d'un voyage, même pour son retour de Rome en train, où il craignait vraiment d'avoir été mis à la porte. Je crois que c'était de chez Julliard.
Vous êtes conseiller littéraire aussi, et vous êtes journaliste. Vous regardez très attentivement les livres des autres. Occupé comme vous l'êtes de vous.
Je crois que c'est mon métier, c'est ça. Et quand vous dites les livres, je dirais moi les manuscrits des
oui,
autres.
Oui, les manuscrits, avant qu'ils ne soient des livres.
Je suis arrivé à un point où quand je me suis occupé d'un manuscrit dans la maison d'édition où je travaille, quand le manuscrit est publié, quand il va chez l'imprimeur, quand il revient chez l'imprimeur, c'est un peu mon livre qui arrive.
Jean-Marc Roberts devient éditeur à 20 ans. Il travaille d'abord chez Julliard, puis au Seuil de nombreuses années. Vous le rencontrez en 88. Quel était son rôle alors ?
Il était éditeur de la collection Cadre Rouge.
Liliane Rod, sa collaboratrice.
Mais il y avait plusieurs éditeurs dans cette collection. Il y avait Louis Gardel aussi, Luc Estan. Enfin, il y avait plusieurs éditeurs. Mais honnêtement, c'était lui le plus important. Il s'occupait aussi beaucoup de la pub, il allait à beaucoup de réunions. C'était quelqu'un qui avait envie de prendre les choses en main. On voyait qu'il ne se contentait pas d'être au comité de lecture et de discuter comme ça, on prend tel livre, on ne le prend pas. Non, il fallait qu'il s'implique complètement dans la fabrication, dans la pub, dans le commercial. Le suivi de l'auteur, c'était ça aussi. Ce n'était pas seulement le texte, c'était aussi tout ce qui entourait le livre. Après, une fois que le livre était imprimé, il s'occupait aussi du passage en poche. Et d'ailleurs, il a dirigé aussi la collection Point. Ce qu'il aimait, surtout, c'était être surpris. C'était être dérangé même, peut-être agacé. Et ce qui m'a appris aussi, ça, c'est que c'est pas parce qu'un livre est parfaitement écrit sur le plan de la syntaxe, etc., qu'il est parfait, s'il n'est que ça. Si c'est que du savoir-faire et de l'artifice, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose qui dérange, quelque chose qui ait un ton, une voix, une intention, quelque chose qui bouscule. Et ces auteurs, il y avait déjà Orsena, Castillo, Decoing, Alexakis, il y avait Lydie Salvert, Catherine Pancol et Christophe Denner.
Par rapport au comité de lecture du Seuil, quelle était sa part de liberté ?
Bon, lui, il détestait les comités de lecture, parce que les comités de lecture, c'était le consensus. Pour lui, c'est pas possible. Quoi. On ne peut pas demander l'avis, comme ça, de 15 personnes, et d'arriver à quelque chose de banal, finalement.
On vient à la maison, il y a le printemps qui chante. À la maison, tous les oiseaux t'attendent.
Donc en 1994, il rejoint le Mercure de France et vous l'accompagnez.
C'est Simone Gallimard, la mère d'Antoine, qui était PDG de cette maison. Elle était ravie de le voir arriver. Elle s'est dit, il va faire revivre la maison. Mais elle a dû trouver qu'il prenait un peu trop de place. Et... au bout de quelques semaines, ça a commencé déjà à se dégrader de façon assez grave. Très vite, on s'est dit qu'il fallait sortir de ce piège. Quoi. Et puis, au bout d'un moment, Jean-Marc a cherché très sérieusement. Il avait pris contact avec Claude Durand, PDG de Fayard. Ils se sont rencontrés. Et c'est là qu'a été conclu donc, ce contrat que Jean-Marc vient de travailler chez Fayard avec une collection. Littéral.
Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit.
Comment s'est faite la création de cette série oui. qui a vraiment mis à l'honneur de nombreux écrivains oui. Français ?
Oui, il dit de série, moi j'avoue que j'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par série, je suis désolée. Mais alors collection, c'est... Peut-être que ce qui le dérangeait, c'est que ça, oui, ça enferme, hein, voilà. Et la collection, on a l'impression qu'il y a un projet et un petit peu une unité, un air de famille chez tous les auteurs. Comme par exemple la collection de Denis Roche au Seuil, Fiction et compagnie, On voyait très bien ce qu'il publiait pas, ce qu'il publiait. Chez Jean-Marc, on peut pas dire ça. Parce que entre Angot, Castillo, Claudel, Orsena, Reinhardt, Éric Faye, je vois pas où est la ligne éditoriale, il n'y en a pas. C'était déjà de rassembler les auteurs qu'il aimait, des auteurs qu'il aimait, ceux qui déjà qui publiaient, et puis découvrir de nouveaux auteurs.
J'ai toujours rêvé de vivre une grande aventure dans un monde inconnu.
Je crois que la première chose qui m'a stupéfié chez, lorsqu'il a créé La Bleue, c'était tout simplement la couverture. Il m'a dit, regarde comme c'est beau. Et honnêtement, la première couverture que j'ai vue, ce bleu, sans liseré, sans rien, et puis les caractères en bleu plus pâle, etc., j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Et je suis sûr que ça va plaire, ça, bien évidemment. Moi, ça me plaît, alors ouais. Bon. Et il est déjà arrivé à installer l'image. Le papier, la typo, tout ce qui fait l'extérieur d'un livre, la robe. Et après, il a mis dans cette collection bleue des livres, des textes qu'il aimait, d'auteurs qu'il aimait, et elle lui ressemble.
La première rentrée, c'était 95. Il y avait deux premiers romans. Il y avait un livre de Michel Del Castillo sur Dostoïevski, Mon frère l'idiot. Un livre de Vassilis Alexakis, je crois bien que c'était La langue maternelle, qui a eu le prix Médicis. Et puis je dois oublier Je ferai un malheur de Denis Robert. Donc, c'est une belle rentrée. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'auteurs qui nous ont rejoints. Il y a eu Nina Bouraoui, Luc Lang, tous les deux venant de chez Gallimard quand même, qui était dans la collection Blanche, une collection prestigieuse. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Philippe Claudel, mais Philippe Claudel c'était chez Stock. Hein. Une rentrée qui a fait du bruit évidemment avec le roman de Christine Angot, Interview. Son quatrième livre qui avait été refusé donc par Gallimard.
Au moment où je rencontre Jean-Marc, c'est une sorte de sauveur.
Christine Angot, écrivaine.
C'est-à-dire que voilà, c'est quand même je suis sans éditeur de nouveau et je retombe dans l'angoisse de ne pas être publié. Écrire, ne pas être publié. J'apprends qu'il arrive chez Fayard. Donc, je lui envoie Interview. Deux jours après, j'ai une réponse. Et c'est immédiat et il m'appelle immédiatement. Mais ça, tout le monde vous le dira parce que la rapidité faisait partie des qualités, des traits de Jean-Marc. L'extrême rapidité. Il y mettait un point d'honneur. Je rencontre Jean-Marc. Qui lit le manuscrit, qui m'appelle tout de suite.
Moi, j'ai travaillé avec des éditeurs qui pouvaient laisser leur manuscrit dans un coin du bureau, par terre, pendant 8 jours. À lui, il n'en était pas question. Il ouvrait tout de suite, il était assez fébrile hein, là-dessus. Quand il avait son premier rendez-vous avec un auteur qu'il avait appelé la veille, et il était, alors là, il regardait sa montre toutes les 5 minutes. Il me disait, t'as pas eu d'appel, il est là. Comme si c'était un premier rendez-vous amoureux. C'était très... c'était assez drôle, ça.
Moi, j'ai eu une expérience avec lui qui a fait que je l'ai considéré comme le plus grand éditeur avec lequel j'avais jamais travaillé. J'avais écrit un livre dont j'avais raconté le sujet. Il m'avait dit, oui, c'est très très bien, fais-le, écris-le. Et arrivé à la page 100, j'ai eu un doute terrible. En principe, je ne fais jamais lire mes livres avant qu'ils soient complètement terminés. Et là, j'ai eu un doute. Et donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas un problème, j'ai une interrogation. Je suis à la page. Est-ce que tu veux bien lire les 100 premières pages ? Il m'a dit, aucun problème, tu me les déposes. J'ai lui déposé chez lui. Et le lendemain matin, il m'a téléphoné. Il devait être 8h30, 9h, donc c'est tôt. Hein, et il m'a dit, voilà, j'ai lu tes 100 premières pages. T'as une corbeille à papier à côté de toi ? Je lui ai dit, oui. Eh bien, tu les mets dedans. C'est dur. C'est même violent, mais c'est formidable. Pourquoi c'est formidable? D'abord parce que ça a évité de publier un mauvais livre, mais ensuite parce que après, par la suite, quand il me disait d'un roman, il est bien celui-là, je le croyais forcément.
Disons que avec un éditeur, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça, avec un éditeur, si on se comprend sur, pas seulement sur le texte, hein, il y a le texte naturellement, mais sur le texte, sur la façon de le recevoir, la manière de donner le coup de fil, l'expression, la façon de enfin, c'est le rapport. Alors on se voit, bon bien sûr, mais dans la voix, déjà au téléphone, moi je suis à Montpellier à l'époque, dans la voix au téléphone, j'ai déjà tous mes renseignements. Et je pense qu'il les a aussi dans ma voix et dans ce qu'il lit.
Fin 1998, il quitte Fayard avec sa série bleue et prend la direction de Stock. C'est une ancienne maison qui renferme une collection prestigieuse, la Cosmopolite, connue pour ses couvertures roses et ses auteurs étrangers, mais elle va mal. Et il a donc fallu la redresser, et on peut dire que c'était un pari à l'époque.
C'est vrai qu'il a fallu un petit peu reconstruire, hein, déjà le fonctionnement. Le fonctionnement du service de presse, qu'il a fallu un petit peu modifier, voir un petit peu les publications. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui étaient publiés chez Stock qui ne sont pas restés. Mais c'est allé très vite, j'ai l'impression, le rebond, si on peut dire. Dans la première entrée, je crois qu'il y avait encore Christine Angot, avec l'inceste, là. Non, là, c'était qui a fait encore un petit scandale.
Là, j'ai une lettre de 20 feuillets, à peu près, 21 feuillets, donc je ne vais pas la lire intégralement, si vous permettez, mais au moins le début de cette lettre de Maurice Zedlin. « J'ai lu, nous dit-il, dans les pages littéraires de Libération, que l'éditeur, Jean-Marc Roberts, commençait le lancement publicitaire d'un roman, L'inceste, de Madame Angot, susceptible d'atteindre le sommet des ventes. Selon une tradition qui semble s'établir après les particules élémentaires de Michel Houellebecq, l'an passé, Étruisme de Marie Dariussecq il y a 2 ans, romans qui certes ne sont pas dépourvus de talent, mais qui en aucun cas ne justifient le tapage artificiel qui est fait à leur propos. Cela ressemble fort, nous dit M. Zedlin, à de la prostitution, l'éditeur étant le maquereau, l'auteur la putain et le lecteur le micheton.
Je peux dire un mot, Jérôme, à propos de Roberts, quand même, parce que je trouve que vous y allez fort. Vous lui tapez beaucoup dessus.
Je ne faisais que lire une lettre.
Non,
c'est lui qui veut nous taper dessus. Hein,
est-ce que c'est pas normal aussi qu'il protège son auteur?
Il fait son boulot
et puis il le fait de façon affective.
Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait.
Pour vous, c'est un bon coup.
C'est un mot de journaliste, ça. Un bon coup. Moi, vous savez, même quand je baise, je tire pas des coups. Donc c'est pareil. Il y a des gens qui baisent en tirant des coups. Il y a des gens qui publient pour faire des coups. Moi, je publie des livres depuis 25 ans et demi maintenant. J'ai pas eu l'impression dans ma vie de faire des coups.
C'est un jusqu'au boutiste de la défense d'un livre. Et son argument, c'était « c'est un bon livre ». Et t'as d'autres raisons de... C'est un bon livre, ça suffit pas. Et c'est un bon auteur, voilà. C'était formidable de... La sensation, je pense, d'avoir un ténor du barreau, mais qui a déjà prouvé qu'il arrachait pas mal de gens à le mettre capital. Il se dépensait comme c'est pas possible. Il aimait tellement les livres qu'il défendait, encore qu'il disait, je vais pas dire que je défends un livre, parce qu'il a rien fait. Le pauvre livre, il n'a pas besoin d'être défendu. Mais il aimait tellement les livres sur lesquels travaillait un auteur auquel il croyait, bon, etc., qu'il les connaissait parfois mieux. En tout cas, il en connaissait à la fois les aspérités et les possibilités mieux que l'auteur lui-même. Donc il co-vivait l'écriture du livre avec l'auteur. Je me dis aujourd'hui que quand j'ai été édité par Jean-Marc, les livres, je les ai créés pour lui.
J'aimais aussi être dans ce que j'appelais aussi l'écurie Jean-Marc, ou la maison
Philippe Claudel, écrivain.
Parce qu'il y avait des auteurs que j'admirais et qui étaient importants pour moi, qui y étaient. Je pense à Brigitte Giraud, je pense à Eric Fay, je pense à Luc Lang. Et j'intégrais un groupe très différent dans l'écriture. Hein, parce que ce qui était intéressant avec Jean-Marc Roberts aussi, c'est qu'il n'essayait pas de formater ses auteurs, mais qu'il aimait des voix quand même qui avaient toute leur singularité. Donc il y a eu ça, et puis après, il y a eu Les âmes grises, qu'on a fait paraître en 2003. Et ce qui était assez curieux, c'est que dès que je lui ai remis le manuscrit assez tôt dans l'année 2003, Jean-Marc m'a dit que ça allait être un très très gros succès. Mais avant même que le livre soit corrigé, imprimé, enfin offert aux libraires, aux journalistes. Donc il avait quand même une intuition qui s'est révélée exacte. Et c'est vrai que le livre a été un gros succès de librairie, de lectorat, couronné par des prix littéraires et de nombreuses traductions. Et cette aventure a été prodigieuse sur le plan éditorial, très curieuse pour un écrivain, parce que c'est toujours étrange, le succès. Et ce qui me faisait plaisir, c'est que c'était aussi un succès de maison. C'était lui, c'était la maison, c'était bien sûr les auteurs que j'ai cités et d'autres, mais aussi tout les personnes qui travaillaient avec lui. Parce que ce qui me plaisait beaucoup chez Stock, c'est qu'il avait su créer une maison. Plusieurs fois, Jean-Marc m'a dit « Mais tu as sauvé la maison, tu as sauvé la maison ». Au début, je pensais que c'était une plaisanterie. Et à un moment, j'en ai même été un peu agacé, donc je lui ai dit, et il m'a regardé, il m'a dit « Non, tu as sauvé la maison ». Donc, ce « tu » était un peu trop restrictif, parce que c'est un livre, c'est quand même, bien sûr, quelqu'un l'écrit, mais c'est quand même une aventure collective. Il y a des gens qui le mettent en page, il y a des gens qui l'impriment, il y a des gens qui le portent, il y a des représentants, il y a des libraires, enfin, tout ça est très complexe.
C'était un éditeur qui soutenait financièrement ces auteurs pour qu'ils aient la tranquillité leur création.
Oui. Il y avait pas mal d'auteurs qui avaient des mensualités. Il était toujours arrivé à l'imposer au seuil déjà. Il y en avait pas mal. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs auxquels il tenait, vraiment, en qui il croyait. Et il disait toujours, c'est marrant parce que lui, qu'on me dit toujours un homme pressé, impatient, il disait toujours qu'il faut être patient. Un jour, ça viendra. Donc il faut lui permettre d'écrire. Il faut lui permettre de faire son chemin. Un jour, ça viendra.
Lui qui était un impatient, il se disait aussi impatient.
Oui.
Pour l'édition, il avait le sens du temps.
Oui, tout à fait. Oui, là-dessus, c'est vrai, c'est très juste.
Moi, je joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous ?
Je me souviens une fois dans une... Je ne sais pas si c'est pas dans une émission chez Pivot où il y avait une sorte de questionnaire, genre questionnaire de prose, quelque chose comme ça, et où il y avait, parmi les questions, il y avait quelle est votre drogue ? Jean-Marc avait dit édition. Et c'est ça. Donc moi j'adore ça. J'adore un éditeur qui a une passion pour l'édition, pas seulement pour la littérature. Jean-Marc avait ça. Et finalement, c'est plus rare qu'on ne croit. Comme si la passion pour la littérature devait absolument aller de pair avec un dégoût pour le jeu éditorial.
C'était pour l'auteur un éditeur parfait. C'est-à-dire que moi, il savait que j'en avais absolument rien à faire des prix littéraires. C'est vrai que ça m'a jamais ni fait rêver, ni fantasmé. Enfin bon, je respecte ceux qui rêvent après ça, mais moi, c'est pas mon cas. Donc bon, Jean-Marc m'en parlait pas. Il me disait une chose, dans le pire des cas, on gagne. Mais
je veux vivre
pour autant, je savais que le Jean-Marc qui me laissait tranquille avec ça ne cessait comme éditeur de travailler en sous-sol, en sous-main, de façon laborieuse, quotidienne, etc., pour que ses auteurs aient des prix quand il y croyait. Parce que il ne faut pas l'oublier que c'était aussi un formidable joueur de poker, c'était un formidable faiseur de prix, c'était.
il était quand même de l'école un peu d'Yves Berger. Enfin, c'est cette génération qui manœuvrait les prix, parce que c'était aussi une époque où on manœuvrait les prix. C'est pour ça que j'ai jamais été dupe sur mon Renaudot pour les âmes grises.
Il faisait des listes. Il avait toujours des listes, des colonnes. Et il me montrait, puis alors il m'expliquait, hier j'ai eu un tel, bon on a une chance, blablabla. Alors il y avait les auteurs qui passaient d'une colonne à l'autre, oui il en parlait, il était très très impliqué dedans, c'était son travail pratiquement au seuil, hein, et puis il adorait ça.
Et donc c'était terrifiant, je savais qu'à partir de la fin août, début septembre, il allait téléphoner, et tring, je décrochais, c'était Jean-Marc. Alors écoute, je ne vais pas t'embêter longtemps, Didier. Je ne te retéléphonerai pas pour ce livre-là. Je sais que la première liste, vous l'avez décidée mardi. Juste si tel livre était sur la première liste. Après, tu n'entendras plus parler ni du livre ni de moi. Je te le jure, je suis ton ami, on se connaît, tu as confiance en moi. Je dis, oui, bon Jean-Marc, je ne suis pas sûr d'arriver, tu sais, on est 10. Oui, non, mais tu peux insister, tu peux défendre mon livre, bref. Le livre était sur la liste. Je lui téléphonais. Jean-Marc Séguin y était sur la première liste. Ah, c'est formidable, merci. Alors, je ne veux pas t'embêter et je ne t'appellerai pas pour la troisième, mais sur la deuxième liste. Est-ce que tu crois que tu peux faire en sorte qu'il y soit? J'en sais rien, Jean-Marc. On est à 15 jours, 3 semaines de la deuxième liste. Mais retéléphone avec. Bon, demain, écoute, si je ne suis pas sur la troisième, je m'en fiche. Mais vraiment, je te jure, je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mais la deuxième, aide-moi. Ça, c'est le côté florentin. Côté italien de Jean-Marc, ah, c'était fait une proposition. Hein. Tous mes dons de Goncourt et j'étais. Enfin, il adorait ça dans le fond.
Ah, attendez, Sylvie.
Le prix Goncourt 1988 a été attribué au sixième tour de scrutin à Éric Orsenna pour l'exposition coloniale par 5 voix contre 4 à Bernard-Henri Lévy. Et une à François-Olivier Rousseau.
Il a dit une phrase, je trouve quand même assez forte, je ne sais pas comment vous la recevez comme auteur, qu'il était fait par ses auteurs.
Alors ça je pense, ça fait partie de l'univers un petit peu fantasmagorique de Jean-Marc, qui, quand il trouvait une formule, sautait à cheval dessus, puis partait au galop. Et c'est vrai que c'est magnifique, c'est vrai que ça peut arriver dans certains cas, c'est Pygmalion renversé, mais j'y crois pas pour Jean-Marc. D'abord, parce que je pense pas qu'il se laissait faire, façonner, modeler par quiconque d'autre que lui-même, ses fantasmes, ses peurs, ses trucs. Mais en tout cas, certainement pas par ses auteurs.
Pour rebondir un petit peu sur ce que dit Didier, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Et puis, sur le sens de la formule, vous savez, il y a cette formule qui a souvent été reprise et dont il a fini par avouer que c'était lui qui l'avait inventée. Robert, c'est bien meilleur éditeur qu'auteur.
Oui.
A priori, c'est Jean-Marc qui l'a créé, ça. Et il s'en servait bien et les autres s'en sont servis. Et je trouve que c'était assez rigolo, quoi.
C'est un coquin, hein. C'est quelqu'un qui parle une langue qu'il faut sans arrêt traduire. C'est pas du petit nègre, c'est une langue à lui.
Dans son œuvre, il est souvent question de mensonges et d'enfance. Et, d'ailleurs, les premiers titres sont très romanesques. On y retrouve les enfants de fortune, le sommeil agité. Mais il semble glisser vers l'autofiction, surtout à partir de Méchant, jusqu'au dernier, de Vive Almucune.
Le tout dernier, oui. Le tout dernier, qui est d'ailleurs un livre magnifique. Enfin, c'était de la fiction de l'autofiction déguisée chez Jean-Marc. Il y a un personnage de ses livres, ce qui revient, je crois, dans 2 ou 3 volumes, qui est intéressant, qui n'est pas un être humain. C'est le fameux petit cirque Joy. C'est quoi? C'est un petit cirque. Ce qui veut dire que les gens qui travaillent pour le petit cirque Joy sont des clowns, des acrobates, donc des gens qui travaillent dans l'illusion. Donc là, il a inventé un monde aussi. Et quand il n'utilise pas le nombre plus important de livres, ou il n'utilise pas le petit cirque de Joy, il est quand même quelque part, ce petit cirque. Toujours des gens qui jouent une comédie légère. On est chez les comédiens avec Jean-Marc.
Jean-Marc Robert, l'adaptation de votre livre, vous y avez participé ?
Très peu, à vrai dire. Non, très peu, parce que c'est un métier, et c'était pas mon métier. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Granit de Fer et Christopher Franck. Ça s'est très bien passé, parce qu'on était sur la même longueur d'onde, ce qui était déjà miraculeux. Moi, je venais de temps en temps, et j'étais d'accord avec eux sur tout. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir tellement travaillé à l'adaptation du film. J'étais là.
Tu ne l'avais pas dit pour ton père. Je croyais qu'il était mort et voilà qu'il existe, au Canada.
Qui vous en a parlé ?
Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu me l'aies caché. Très important, tu sais, Louis, l'image d'un père. Ça explique tout.
Rien.
Même si ça n'explique rien, ça explique tout. Tu le vois souvent ?
Non.
Louis. Je veux pas te mentir, c'est Nina qui me l'a dit.
Nina, vous l'avez vue ?
5 minutes, par hasard. On a pris un café.
Une étrange affaire couronnée de nombreux prix en 1980 avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin, Nathalie Baye, puis l'ami de Vincent, tous deux d'ailleurs de Pierre Granit de Fer, avec Rochefort et Noiret. Ces films rassemblent une nouvelle génération d'acteurs, une génération d'acteurs très confirmée. Jean-Marc Robert semble adoubé par le cinéma dont il rêvait.
On avait effectivement un très jeune auteur encore, un très jeune éditeur, qui écrivait des livres de grande qualité. Et soudain, ces livres étaient adaptés au cinéma et permettaient l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs et en même temps des très beaux rôles pour une génération d'acteurs confirmés et qui se mettaient à choyer en fait cet auteur, Jean-Marc Robert, ce scénariste parfois. Bon, il avait l'art aussi de composer dans ces livres-là dont on a parlé, qui ont été adaptés, de très très beaux personnages. Quoi. C'est ça aussi l'intérêt.
J'ai envie de préciser qu'il y a chez Jean-Marc, il ne faut jamais l'oublier, un rapport au père qui est indiscutable. Et Piccoli, par rapport à Jean-Marc Robert, jeune auteur, c'est une image du père. Et il cherchait son père là où il espérait pour en trouver un. Pourquoi pas dans le cheptel des grands acteurs ? Et cette quête désespérée du père chez Jean-Marc, elle est poignante. Et c'est elle qui sous-tend toute l'œuvre. Je ne sais plus dans quel livre c'est quand il prend le chasseur d'un grand hôtel qui a des boutons d'oreille, il le prend pour son père. Il voudrait que ce soit son père. Il va vers lui comme si c'était son père. Parce qu'il n'a pas eu de papa, en fait.
Allô, papa, Tango Charlie.
La famille, c'est quelque chose qui a inspiré certains de vos livres, surtout à partir d'un moment, c'est-à-dire l'écriture de Mon père américain.
Oui, c'est ça, c'est un livre que j'ai dû écrire en 86-87, qui est sorti en 88, ça fait 8 ans, oui. Oui, c'est la première fois que je parlais de tout ça. Quoi.
Avant, vous aviez écrit déjà pas mal.
Oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé, j'étais le Minou Drouet de la rive gauche au début des années 70, donc j'ai commencé très tôt. Mais j'ai commencé un peu à l'envers, c'est vrai que les premiers livres étaient très, très dans l'imaginaire et pas du tout autobiographique, et c'est plutôt vers la fin, pas vers la fin, c'est bizarre de dire ça.
Attention là, oui.
Mais c'est plutôt maintenant que je viens à des choses plus, oui, plus personnelles. Quoi.
Comment vous expliquez ça ? Vous n'osiez pas avant peut-être ?
Bah, j'osais pas, je n'ai pas envie, je ne prouvais pas le besoin. Si on parle de mon père ne m'a pas manqué pendant très longtemps, et puis un jour il s'est mis à me manquer.
Qu'il ait recherché un père tout au long de sa vie, ça, certainement. Je pense que Jean Carol était certainement le premier père de substitution dans l'édition. Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu plusieurs pères qui se sont succédés ou qui ont été là même ensemble. Comme il l'a raconté dans plusieurs romans, effectivement, son père allait au Plaza Athénée pour 2-3 jours, envoyé pour son travail et pour voir son fils. Et j'ai reconnu son père parce qu'il ressemblait beaucoup de visage, mais alors il faisait 1m95, enfin c'est un rugbyman, voilà, à côté de Jean-Marc. Et alors ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de voir des ressemblances de comportement, comme être très impatient si on a faim, ou se lever comme une bombe comme ça à la fin d'un repas parce qu'on en a assez. Tout ça sont des choses que Jean-Marc faisait, mais que son père faisait aussi, alors qu'il n'avait jamais vécu avec lui. Enfin, moi, je découvrais une famille comme si j'étais au théâtre, quoi. Voilà.
Maman, c'est toi la plus belle du monde.
Et d'ailleurs, j'étais tout à fait au théâtre parce que quand j'ai connu Jean-Marc, sa mère était en pleine préparation avec Jean-Marc de sa pièce Le Beau Rôle, son one woman show. Jean-Marc était extrêmement impliqué dans ce spectacle. Et quant à sa grand-mère était là. Donc il y avait ce côté comédie. Voilà, sa grand-mère appelait par exemple parfois en disant « Ta mère est partie avec un grand sac ». Voilà, elle appelait Jean-Marc, donc il fallait qu'il court dans son ancien chez lui. Voilà, c'est une famille vraiment à l'italienne.
Cette semaine, Tchela a rencontré Jean-Marc Roberts pour son roman « Une petite femme » paru chez Grasset. Cette petite femme, c'est la mère de Jean-Marc Roberts, une mère bien vivante, elle. Celle dont il dit « Je ne l'ai jamais appelée maman, toujours Peggy. J'ai été son frère, son admirateur, son amoureux. Je suis devenu son fils. Il était temps. » Mais écoutons plutôt Jean-Marc Roberts dans un extrait de son roman « Une petite femme ».
J'essaie de la regarder comme une femme de son âge. Un âge longtemps indécis, indéterminé, une femme incomplète. Ne manque pourtant ni les jambes, ni les bras, ni la tête. Chaque centimètre carré de sa peau indique qu'elle ne s'est pas ménagée. Chacune des faiblesses de son corps me rappelle notre passé, sa vie de galérienne, turbulente, les humiliations, le mauvais sang, les comptes à faire. Elle n'a jamais vraiment travaillé des heures normales. Il s'agissait soir après soir d'exécuter son numéro comique. Sur son visage, de coin en recoin, les traces demeurent. Toutes les traces de la nuit. Ces nuits de labeur.
Il va nous la décrire, Francis Blanche. Décrivez-la.
Peggy, tu mesures combien ?
1m55 et demi, mais je dis 1m58, ça fait mieux.
Non, mais non, c'est 55 et demi. Elle ne fait pas de la surenchère, alors. Et la stabilisation. Allons.
Et au point de vue métier, comment vous la définissez ? Qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle est assez indéfinissable, assez difficile à situer, parce que ce qu'elle fait, j'allais dire, ne ressemble à rien, mais ce n'est pas l'expression. En réalité, ce qu'elle fait est tout à fait insolite.
Moi, j'aime le musical. Oh, les soirées des grandes premières. J'aime Becco Adamo et aussi Adalonati. Oh.
Si je t'oublie pendant le jour.
Sa mère était quand même assez déjantée et pouvait nous faire venir à des spectacles qu'elle faisait au théâtre de 10 heures. Et puis terminer la soirée chez Michou, enfin.
En pleine possession de mon art, je suis partie à Hollywood, espérant contact des grandes vedettes, devenir moi aussi un monstre sacré. Marilyn.
C'est la partie maternelle qui a eu beaucoup d'importance dans sa vie et dans son éducation. J'ai connu aussi très très vite la tante de Jean-Marc, qui était un personnage absolument incroyable. Donc, que tout le monde appelait Joyce. Elle s'était remariée avec un marquis calabrais s'appelant Félix Genoese Zerbi, qui avait un diplôme de médecine, mais qui a absolument, à ma connaissance, jamais exercé, et qui avait monté des serres, des roseraies, en Calabre. Et c'est la raison pour laquelle... Donc, il vivait à Rome... mais ils avaient aussi ce grand domaine en Calabre. Et donc avec Jean-Marc, on a passé pas mal de vacances à Rome et en Calabre.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Je me souviens d'Amalia et de Maria.
De vie valent mieux qu'une.
Je suis sûr de les avoir aimées. Amalia davantage car elle n'a pas souhaité que je l'aime trop longtemps. J'avais un secret, celui de garder toujours un peu de sable entre mes doigts de pied. En rentrant le soir et même la nuit, j'adorais découvrir encore un peu de sable entre le gros orteil et l'index. Est-ce que ça ne me gênait pas ? Mais si, un léger empêchement, assez délicieux. Le voilà mon truc. Subir toujours une petite contrariété qui me pèse, mais gentiment. Alibi pour repousser depuis toujours le grand livre, la vraie bonne vie. Je pense que tout cela m'assomme. Je préfère les bouts, les instants, les petites ruses des magiciens, les tours des illusionnistes.
Quand j'ai regardé ce livre, ce qu'on en a tiré comme film, de l'amie prodigieuse et des affaires, je me disais quand à certains moments, les deux petites sont un peu harcelées par des mauvais garçons, etc., mais qui sont pas méchants. Ouais, je remarque qu'il aurait très bien pu être ça. Et il serait tombé fou, dingue, amoureux de la fille, puis il l'aurait embêté, mais gentiment. J'imagine bien marchant en chantant au soleil, sous le linge qui sèche, etc. Et ciao, belle. C'était un drôle de zégépus hein, quand il était jeune, Jean-Marc. Il éclaboussait. C'était un grand oiseau qui est un volatile, qui marchait en étendant ses ailes, en faisant la roue. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes. J'ai commencé par penser que c'était un fief menteur, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit « j'écris à cause de vous ». J'ai dit « non, bon ». J'ai une autre, comment ça? Oui, j'ai lu Abraham de Brooklyn. Je l'ai pas lu, je l'ai volé d'abord avant de le lire. Et je ne l'ai jamais cru, ça. Je me suis dit, quelqu'un qui ment comme ça sans qu'on lui demande rien, c'est un créateur. Parce que le mensonge, c'est de l'art, ça peut être c'est une création. Ex nihilo, quoi.
C'était un romanesque caché, c'est-à-dire c'était un personnage. Donc il était difficile de cerner exactement à l'heure où on le voyait dans quel état d'esprit il était. Il pouvait être Dabadi un jour, et Philippe Labro le lendemain, et Modiano un autre jour. Il était, il endossait des personnages comme ça pour avancer dans la vie. Il était comme ça, je crois.
Moi, je crois que j'ai écrit quelque part, je ne sais plus où, c'était dans Jean-Marc ou ailleurs, mais où je l'ai dit, que Jean-Marc, c'était un amoureux. C'était un amoureux de la vie, c'était un amoureux des livres, un amoureux des écrivains, un amoureux des femmes. Ça, c'est quand même un versant très important de sa vie. Hein. C'est vrai que Jean-Marc, il a eu une vie amoureuse par chapitre, à chaque fois intense, et donc des enfants qui sont nés à des moments différents de sa vie. Il a été très jeune père, il était sur la fin un père plus âgé, et avec donc 5 beaux enfants qui ont des âges extrêmement variés, avec 3 compagnes, complices, femmes différentes. Je me suis quand même inspiré de lui par rapport aux relations qu'il pouvait avoir avec ses enfants, qui était un mélange de douceur, d'admiration, de distance et de compréhension, de complicité. Et j'aimais beaucoup quand il me disait qu'avec son petit Alphonse, voilà, il prenait le bus d'un bout à l'autre de Paris. Leur jeu, c'était de faire une ligne complète.
Si Jean-Marc Robert, c'était une chanson.
Oui, il serait tout un répertoire. Il serait tout un répertoire parce qu'il aimait des compositeurs, paroles et musiques très différents. Il aimait des interprètes très différents. Et il n'avait pas peur, contrairement à beaucoup de gens qui se snobent de la variété Burke. C'est comme certains auteurs qui vendent beaucoup d'exemplaires. Ça vaut rien. Et lui, il aimait la variété.
Une chanson qui correspondrait bien pour moi à Jean-Marc, c'est par exemple Parole, Parole. Parce que les mots, le sens de la formule, le mensonge, une chanteuse populaire et un acteur de long. Enfin, voilà, on a tout. Et je me souviens de ces fameuses soirées quand on faisait des fêtes. Il y avait ce répertoire qui passait, on choisissait cette playlist qui consternait les disjockeys qui étaient engagés pour l'occasion, parce qu'ils essayaient de nous balancer des trucs dont on ne voulait pas, et puis on leur faisait mettre ça. Et il y avait finalement quelque chose qui émergeait, qui était simplement la joie de vivre. Quoi.
Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule.
J'ai entendu tout à l'heure, après ou avant la mort de Jean-Marc, c'est une phrase qui est étonnante pour moi. La mort et Jean-Marc, ça faisait pas bon ménage. C'est une chose qu'il a vraiment haï du plus profond de son âme, la mort. Il a essayé de la tenir à l'écart, elle a fini par gagner, mais il l'a détestée. Dans ses livres, elle est étrangement absente. On ne meurt pas dans le livre de Jean-Marc, on disparaît. Tout d'un coup, on ne parle plus du personnage, ou à la fin du livre, on ne sait pas ce qui est arrivé. Les gens s'avancent dans un paysage où le brouillard peut tomber à tout instant, mais on ne meurt pas.
Pour me voler ton sourire.
De construire toujours une vie supplémentaire, mais j'ai eu beaucoup de vies, il paraît que les champs ont 9 vies, je ne sais pas si j'arriverai à 9, mais on n'est pas fier d'avoir raté sa vie affective, si on l'a raté, ce n'est pas une fierté, on n'est pas fier d'avoir publié certains livres écrits un peu vite, voilà, et puis je pense que les gens qui sont satisfaits, ben je les plains, le jour où on est satisfait, on est mort, il faut toujours chercher, sans jamais trouver. Il faut tenter de s'améliorer. On est perfectible, mais je crois que on reste avec ce qu'on a au début, quoi. Voilà. On a 3 mots, on a 3 jouets, on a 3 fétiches, mais après on fait semblant d'en avoir d'autres. On fait semblant.
Quel serait votre dernier mot, Christine Angot, sur Jean-Marc Remertz?
C'était un éditeur. Il appartenait à la famille des éditeurs. C'est une toute petite famille. C'est une toute petite famille. Et... ouais. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une famille ou une race. Je pense que c'est une race. Justement. Et je pense qu'il était de cette race-là. Il était de la race des éditeurs.
C'était Jean-Marc Remertz, éditeur en marchant, écrivain en courant.
Quelque chose en toi ne tourne pas rond.
Avec Didier Barbelivien, Jean-Michel Attal, Éric Orsenna, Didier Decoin, Pamela Remertz, Liliane Rode, Christine Angot et Philippe Claudel. Prise de son, Arthur Gerbeau, Régis Nicolas et Marie Le Peintre. Mixage, Jason Taous. Archives INA, Anne Brûlant. Coordination, Christine Bernard avec Sylvia Favre. Réalisation Somanina, un documentaire de Capucine Ruat.